Bonjour, je suis Nathanaël, médiateur au musée Rabelais près de Chinon, et pour cette nuit de la lecture, je vous propose un florilège de mes extraits préférés de Gargantua, un roman écrit par Rabelais en 1534. Peu de temps après, Gargamel commença à se lamenter et à crier. Aussitôt arrivèrent en masse des sages-femmes de tous côtés. La tâtant par en dessous, elles trouvèrent quelques morceaux de peau d'assez mauvais goût, et elles pensaient que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui lâchait par le relâchement du gros intestin, que vous appelez le boyau du cul, pour avoir mangé trop de tripes. Alors, une vilaine vieille de la compagnie, qui avait la réputation d'être guérisseuse, lui administra un astringent si terrible que ses sphincters furent si obstrués et resserrés que vous ne les auriez pas élargis, même avec les dents. Ce qui est chose bien horrible à imaginer. Cet obstacle fit se relâcher au-dessus les cotylédons de la matrice, par où l'enfant jaillit, entra dans la veine cave et grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules où la dite veine se sépare en deux, l'enfant prit le chemin de gauche et sortit par l'oreille gauche. Sur la fin de la cinquième année, Grand Gousier, de retour de la guerre, vint voir son fils Gargantua. Alors, il fut saisi de toute la joie concevable chez un tel père, voyant qu'il avait un tel fils, et tout en l'embrassant et en l'étreignant, il lui posait toutes sortes de petites questions puériles. Il demandait avec un grand intérêt si, entre autres choses, ses gouvernantes l'avaient tenu propre. Ce à quoi Gargantua répondit qu'il s'y était pris de telle façon qu'il n'y avait pas, dans tout le pays, un garçon qui fût plus propre que lui. « Comment cela ? » dit Grand Gousier. « J'ai découvert, répondit Gargantua, à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul. C'est le plus seigneurial, le plus excellent et le plus efficace qu'on ait jamais vu. » « Quel est-il ? » dit Grand Gousier. « C'est ce que je vais vous raconter à présent, » dit Gargantua. « Une fois, je me suis torché avec le cache-nez de velours d'une demoiselle, ce que je trouvais bon vu que sa douceur soyeuse me procura une bien grande volupté au fondement. Une autre fois, avec des cache-oreilles de satin de couleur vive, mais les dorures d'un tas de saloperies de perlettes qui l'ornaient m'écorchèrent tout le derrière. » Ce mal me passa lorsque je me torchais avec un bonnet de page, bien emplumé à la Suisse. Puis, alors que je fiantais derrière un buisson, je trouvais un chat de Mars et m'entorchais, mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée. Ce dont je me guéris le lendemain en me torchant avec les gants de ma mère bien parfumés de bergamote. Puis je me torchais avec de la sauge, du fenouil, de la nette. Puis je me torchais avec les draps, les couvertures, les rideaux, avec un coussin. Tout cela me procura plus de plaisir que n'en ont les galeux quand on les étrille.
« C'est bien, dit Grand Gousier, mais quel torche-cul trouvas-tu le meilleur ?»«
J'y arrivais, dit Gargantua, vous en saurez bientôt le fin mot. Après, je me torchais avec un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, un panier, mais quel peu agréable torche-cul. Puis je me torchais avec une poule, un coq, un poulet, la peau d'un veau, un lièvre, un pigeon, un cormoran. Mais pour conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Croyez-moi sur l'honneur, vous ressentez au trou du cul une volupté mirifique, tant à cause de la douceur de ce duvet qu'à cause de la bonne chaleur de l'oison qui se communique facilement du boyau du cul et des autres intestins jusqu'à se transmettre à la région du cœur et à celle du cerveau.
Gargantua visita la ville de Paris et fut regardé par tout le monde avec une grande admiration, car le peuple de Paris est tellement badaud de nature qu'un bateleur, un porteur de reliquailles, un mulet avec ses clochettes, un vielleux au milieu d'un carrefour rassembleront plus de gens que ne le ferait un bon prédicateur évangélique. Ils furent si fâcheux en le harcelant qu'il fut contraint de se réfugier sur les tours de l'église Notre-Dame. Installé à cet endroit et voyant tant de gens autour de lui, Gargantua dit d'une voix claire « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici même ma bienvenue et mon étrenne. C'est juste, je vais leur payer à boire, mais ce ne sera que Paris. » Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant en l'air sa mantule, il les compissa si roidement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les petits-enfants. Quelques-uns d'entre eux échappèrent à ce pisse-fort en prenant leurs jambes à leur cou. « Carimarie, Caramara, par sainte mamie, nous voilà arrosés Paris. » Depuis, la ville en fut appelée Paris. Dans l'abbaye, il y avait alors un moine cloîtré nommé Frère Jean des Entômeurs. Jeune, vigoureux, gaillard, joyeux, bien adroit, hardi, entreprenant, décidé, grand, maigre, fort en gueule, le nez avantageux, beau débiteur de prières, bel expédieur de messe, pour tout dire, un vrai moine s'il en fut jamais depuis que le monde moina. En entendant le vacarme que faisaient les ennemis dans l'enclos de la vigne, il sortit pour voir ce qu'il faisait, et constatant qu'il vendangeait l'enclos dont dépendait leur boisson de toute l'année, il s'en retourne dans le chœur où étaient réunis les autres moines tout ahuris comme fondeurs de cloches. En les voyant chanter, il dit « C'est bien chien chanté, vertu Dieu, que ne chantez-vous ? Adieu, panier, vendanges sont faites !» Alors le prieur dit « Que fait cet ivrogne, qu'on me le mette en prison, troubler ainsi le service divin ?»« Mais, dit le moine, le service du vin, faisons en sorte qu'il ne soit pas troublé, car vous-même, monsieur le prieur, vous aimez en boire et du meilleur. » « Écoutez, vous autres, messire, qui aime le vin, corps de Dieu, me suive, car j'ose le dire que le feu Saint-Antoine me brûle s'il touche un godet, ceux qui n'auront pas secouru la vigne. » Sur ces paroles, frère Jean ôta sa grande robe et se saisit du bâton de la croix, qui était en cœur de sorbier, long comme une lance, tenant bien en main et parsemé de fleurs de lys, presque toutes effacées. Et il sortit ainsi, vêtu de sa casaque, le froc accroché à sa ceinture, et du bâton de la croix il donna si brusquement sur les ennemis, qui, sans ordre ni enseigne, ni tambour ni trompette, grappillaient dans l'enclos. Aux uns, il écrabouillait la cervelle, aux autres il rompait bras et jambes, à d'autres il démettait les vertèbres du cou, à d'autres il disloquait les reins, ravalait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, renfonçait les dents dans la gueule, défonçait les omoplates, brisait les jambes, déboîtait les hanches, émiettait les tibias. Si quelqu'un voulait se cacher au plus épais des ceps, il lui froissait toute l'épine dorsale et l'éreintait comme un chien. Si un autre voulait se sauver en fuyant, il lui réduisait la tête en miettes à travers la suture lambdoïde. Si quelque autre grimpait dans un arbre pensant y être en sûreté, de son bâton il l'empalait par le fondement. Et s'il y en avait d'assez téméraire pour lui résister en face, il démontrait là la force de ses muscles. Il leur transperçait la poitrine par le thorax et le cœur. À d'autres, en les frappant au bas des côtes, il retournait l'estomac, ce dont il mourait aussitôt. D'autres, il les frappait si férocement au nombril qu'il leur en faisait sortir les tripes. À d'autres,
à travers les couilles, il perçait le boyau du cul. Croyez bien que c'était le plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu. Ainsi, par ces exploits furent déconfits tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans l'enclos, au nombre de 13 622.
Et voilà, c'était des extraits du Gargantua de Rabelais. Belle nuit de la lecture à vous tous.